7h28, Alexandre Taillefer a fait ses premiers pas en politique hier de façon officielle. Donc, il va diriger, présider la campagne du Parti libéral du Québec. Il est avec nous ce matin. M. Taillefer, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Si j'ai bien compris, vous auriez pu militer autant pour le Parti québécois, la CAQ qui vous a sollicité, le Parti libéral.
Vous voulez dire que ces partis-là m'ont contacté?
Oui.
Absolument. Les trois partis m'ont contacté.
Pas Québec solidaire.
Savez-vous quoi? Vous savez que j'ai toujours démontré une affection pour Manon Massé. Je pense que le Québec solidaire est important dans le portrait québécois parce qu'il défend des valeurs importantes, des valeurs de protection des gens qui sont les moins favorisés dans notre société. Mais non, je ne serais pas allé dans un parti comme le Québec solidaire.
Bon, que vous ayez des amis, que vous ayez appuyé des amis dans différents contextes, là, course électorale ou autre... Ça se défend, ça se comprend. Là où les gens ont beaucoup accroché, c'est quand vous avez dit que le Parti libéral défendait... En fait, votre adhésion était due aux valeurs progressistes du parti. Parlez-vous du parti de Philippe Couillard, de Jean Lesage, de Claude Rayune ou de Robert Bourassa?
Écoutez, c'est sûr que si demain matin vous regardez, vous faites le bilan du gouvernement Couillard, il y a eu une période de rigueur importante en termes de finances publiques. Il y a eu un grand ménage qui a été fait au niveau des finances publiques et on ne peut pas dire que les deux ou trois premières années du gouvernement libéral ont été des années progressistes. Ceci dit, quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la pensée de ce gouvernement-là, la mise en place des nouvelles politiques du gouvernement libéral, le plan relié, entre autres, à sortir près de 100 000 personnes de la misère, le plan de mobilité durable, qui est un des plans les plus ambitieux qui a été développé au niveau de la mobilité au Québec. Quand on regarde la hausse du salaire minimum, quand on regarde l'introduction de la troisième semaine de vacances au bout de 3 ans pour tous les employés au Québec, je pense qu'il y a une tangente aujourd'hui que le parti est en train de prendre et je compte contribuer de façon importante, comme d'autres.
Mais vous allez contribuer comment? C'est-à-dire que là, je comprends, d'être président de campagne, c'est une chose, là. Mais allez-vous vous promener dans le Québec, appuyer des candidats, faire une campagne active?
Je compte faire une campagne active. Je compte recruter des candidats, aider au recrutement des candidats. Je compte participer au développement de la plateforme électorale également. Alors, ça va être un mandat assez exigeant, je vous dirais, à partir du 1er août. Là,
mais pourquoi vous n'êtes pas candidat?
Pour des raisons bien évidentes, j'ai en ce moment d'innombrables activités, comme vous le savez bien, et pour moi, de choisir de sortir de là, ce serait irresponsable d'un point de vue économique, d'un point de vue relation avec les partenaires, les gens qui m'ont fait confiance chez Expan.
Mais on connaît, et vous l'avez très bien entretenu, appelons ça vos ambitions. Quand vous envoyez une photo sur les médias sociaux de la ville de Québec en disant « je passerai bien 4 années ici », là, on comprend que la politique active, candidat, élu, ministre, c'est ça qui vous fait carburer, qui vous intéresse en bout de ligne, là.
Aujourd'hui, où je suis rendu dans ma vie, l'implication sociale, être capable de faire avancer le Québec, être capable de développer un plan ambitieux pour le Québec en respectant les valeurs sociales, c'est vraiment ce qui m'anime. Vous avez tout à fait raison.
OK, mais un jour, vous allez être candidat.
Je ne peux pas vous confirmer que je serai candidat un jour. Vous savez ce que c'est la politique. C'est un sport extrême. J'en subis les conséquences depuis une semaine. Je me plains pas. Je l'ai cherché. Mais est-ce que cette période-là de 5 mois intenses va faire que je retournerai plus à un rôle en arrière-plan ou un rôle d'influence? C'est toujours sur la table, bien entendu.
Non, mais ce que je veux dire, là... Puis Mario Dumont avait une belle image. Là, vous en venez aider le Parti libéral. Correct, vous allez faire campagne, trouver des candidats. En même temps, si le Parti libéral est réélu et que Philippe Couillard reste chef, ça vient couper vos ambitions au leadership. Si vous travaillez assez fort pour le faire bien paraître, mais pas gagner, ça ouvre une porte à une course à la direction.
L'objectif est très clair. Mon objectif est de faire gagner M. Couillard.
Là, vous ne me direz pas le contraire, c'est sûr, ce matin.
Mais
là,
je suis absolument convaincu de ça. Je pense que quand vous regardez aujourd'hui les sondages, la moitié de la population est indécise. Et je pense que la moitié de la population est indécise aujourd'hui parce que il y a une option aujourd'hui qui est malheureusement pas très claire en termes de positionnement au niveau économique.
Voulez-vous être premier ministre du Québec?
Est-ce que ça fait partie de ma bucket list quand j'avais 9 ans?
Non, aujourd'hui.
Non.
À 9 ans, oui.
À 9 ans, oui.
À 20 ans?
À 20 ans, oui.
Ça a arrêté quand?
Ça n'a pas arrêté.
OK, donc vous voulez toujours être premier ministre.
Oui, mais vous me demandez est-ce que vous voulez être premier ministre aujourd'hui. J'ai une ambition aujourd'hui de pouvoir servir la province. Et si l'occasion se présente et si ce que je défends résonne auprès de la population, c'est sûr que c'est quelque chose que j'envisage.
OK. Vous avez mis vos entreprises médiatiques de côté pour éviter tout conflit d'intérêts. Là, vous allez jouer un rôle actif. Pierre-Carl Péladeau est propriétaire d'un empire et tweet régulièrement sur les questions d'actualité, que ce soit au fédéral ou au provincial. Allez-vous tweeter?
Je tweeterai pas avec des positions aussi corrosives que M. Péladeau. Je vais retweeter comme je le fais des articles qui m'apparaissent intéressants, qui alimentent la réflexion au niveau des enjeux sociétaux. Alors ça, je vais continuer à faire ça, mais vous me verrez pas commencer à critiquer la politique d'un tel ou rire d'un tel candidat ou me moquer d'une candidate qui publie quelque chose relié à la meute, là. Alors ça, vous ne me verrez pas faire ce genre de politique.
OK, mais par exemple, vous n'allez pas, je ne sais pas, en pleine campagne, attaquer la CAQ sur une de leurs positions, une déclaration de François Legault ou de Jean-François Lisée?
Je vais tenter de me retenir. Vous savez, je viens de Quartierville, moi. Fait qu'il y a un petit côté chat de ruelle que j'amadoue petit à petit. À 46 ans, mes cheveux sont un peu plus blancs et je pense avoir une maturité un peu plus importante que je l'avais à 35 ans.
Parlons de Théo Taxi. Ce matin, le Journal de Montréal nous dit qu'il y a des problèmes, appelons ça de relations de travail, des chauffeurs qui se plaignent. Il y a des chauffeurs qui ont perdu leur emploi. Là, d'abord, il y a combien de chauffeurs qui sont partis?
On a mis près d'une trentaine de personnes à la porte.
Pour quelles raisons?
Pour des raisons de vol pur et simple.
De vol?
Oui. Vol de temps, je vais vous donner des exemples, des chauffeurs qui partent à 4 heures du matin d'un centre de service, ils doivent commencer à travailler à 4 heures, qui vont se réfugier à Laval et qui n'auront pas d'appel pendant 3 heures et quart, pendant qu'ils font leur petit dodo à Laval, parce que le territoire n'est pas couvert là-bas, donc l'application ne leur enverra pas d'appel. Des gens qui vont partir, des chauffeurs qui partaient dans la direction opposée d'un client pour s'assurer que le client cancelle. C'est une industrie extrêmement complexe, une entreprise qui a grandi très rapidement. On est aujourd'hui près de 600 employés. Il y a 450 chauffeurs les gens sont habitués de fonctionner. Les gens qui viennent de l'industrie du taxi sont habitués de fonctionner dans d'une certaine façon. Et la reprogrammation de ce comportement-là n'est pas évidente.
Mais ce qu'on peut lire, là, enfin, les commentaires qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, c'est qu'ils se sentent surveillés, épiés, chronométrés pour aller aux toilettes. Et que, bref, vous n'êtes pas un si bon employeur que ça, là.
Alors,
employeur progressiste.
Oui, bien, parlons de ça parce que ça m'apparaît important. Vous savez qu'aujourd'hui, la rémunération chez Théo est de 15 de l'heure plus les charges sociales. On offre aujourd'hui une rémunération qui nous coûte à peu près 18 à 18,50 de l'heure. Quand vous regardez les études très sérieuses qui ont été faites par le MIT, par exemple, au niveau de la rémunération des chauffeurs Uber va faire à peu près 4 de l'heure sans aucun filet social. Quand vous regardez l'industrie du taxi à Montréal, un chauffeur va faire à peu près 20 de l'heure brut avant ses dépenses. Alors nous, aujourd'hui, en payant 18,50 $ chaque travailleur, en leur offrant les semaines de vacances, la RRQ, les congés fériés, etc., etc., tout ce qu'un employeur paye quand les employés sont salariés, c'est évident qu'il faut qu'on développe un modèle qui est différent. Et ce modèle différent-là, c'est un modèle qui est basé sur de la productivité. C'est basé sur des modèles inspirés, par exemple, de UPS ou de FedEx. Les gens ont des tâches à accomplir. Effectivement, tout est chronométré. On n'est pas dans une perspective où les gens s'en vont comme travailleurs autonomes, faire ce qu'ils veulent et être capable d'aller se positionner où ils veulent, travailler quand ils veulent. On n'est pas du tout dans cette perspective-là.
OK. La dernière fois qu'on s'est parlé de Théo, vous m'avez dit, bon, il y a eu ces rappels. En fait, les investisseurs ont dû remettre de l'argent dans l'entreprise à deux reprises, sauf erreur. Mm-hmm. Il y a eu des cadres qui sont partis de chez Théo, là. Quel est l'état de santé de Théo Taxi aujourd'hui?
On est une entreprise en croissance importante. L'entreprise aujourd'hui continue à perdre de l'argent. Donc, on perd de l'argent sur une base mensuelle. On s'attend à atteindre le seuil de rentabilité, je vous dirais probablement fin décembre, début janvier. Tous les indicateurs aujourd'hui sont en croissance. Le nombre de chauffeurs est en croissance. Les délais d'attente ont diminué de façon importante. C'est à peu près aujourd'hui 5 minutes moyennes au centre-ville. Vous savez que le fait qu'on était contraint à ne pas engager des chauffeurs 4C, donc des chauffeurs qui avaient un permis de conduire standard versus un pocket, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus par l'industrie du taxi, était extrêmement problématique pour notre plan. on vient d'engager Dominique Lemay. Dominique était le président de Transdev Canada, une des plus importantes compagnies de transport au Canada. On a complètement changé le management pour rentrer des gens avec une extraordinaire séniorité. On est allé chercher des gens en ressources humaines, on est allé chercher des gens en développement de produits.
Ma question plus directe, là, oui? Ça pourrait-tu fermer... Est-ce que Théo Taxi pourrait fermer ses portes?
Aujourd'hui, on a un financement en place qui va nous permettre d'atteindre le seuil de rentabilité. Mais demain matin, vous me posez la question, est-ce que Post Canada peut fermer? Est-ce que Bombardier peut fermer? Toutes les entreprises peuvent avoir un
Non, mais une entreprise qui perd de l'argent tout le temps, tout le temps, qui dit, ben moi, j'espère que selon nos plans, on va faire de l'argent.
Ouais.
Mais là, actuellement, vous en faites pas. Vous pouvez en perdre pendant combien de temps encore?
Quand vous regardez aujourd'hui combien est-ce qu'on perd de l'argent, à chaque mois, on améliore notre position. Donc, on est dans une situation où on augmente le nombre de voitures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coût opérationnel, la gestion, le développement technologique, etc., nous coûte à peu près 8 millions de dollars par année et on amortissait ça sur 110 voitures. On est rendu aujourd'hui à 160. On augmente à peu près de 20 voitures par mois et cette croissance-là est très importante pour nous. Vous savez, l'article du Journal de Montréal représentait un portrait clair et franchement, le journaliste a fait un bon travail parce qu'il m'a interviewé, j'ai donné les contre-arguments et l'article est réellement factuel. Ce qu'il faut se demander, par contre, c'est comment ça se fait qu'un article sur un enjeu opérationnel d'une compagnie fasse la page couverture ce matin du Journal de Montréal avec un autre petit encart en bas de José Legault. Alors, dans les 5 derniers jours...
OK, vous êtes en train de me dire, dans le fond, que le Journal de Montréal ce matin, propriété de Pierre-Carl Péladeau, vous met dans le front avec un problème qui se retrouve plus loin dans le journal, page 27, là, si ma mémoire est bonne, que c'est de quoi? C'est la façon de vous attaquer parce que vous êtes au Parti libéral.
C'est pas ce que j'insinue. Ben... Le fait qu'il y a eu 11 chroniques dans le Journal de Montréal depuis mon arrivée il y a 5 jours, je laisserai aucune... je ferai pas d'insinuation par rapport à ça. On peut se poser certaines questions.
OK, mais on va poser une question plus directe. Est-ce que vous me dites que Pierre-Carl Péladeau utilise ses médias contre le Parti libéral?
Vous savez ce qui est arrivé quand les gens m'ont accusé de pouvoir influencer une campagne électorale avec l'actualité. Je pense qu'on a démontré avec l'actualité qu'on était réellement extrêmement loin de la salle de rédaction, qu'on n'intervenait pas et je suis intervenu immédiatement pour me retirer.
Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est est-ce que vous dites que Pierre-Carl Péladeau utilise ses médias contre le Parti libéral?
Je pense qu'il y a une certaine influence.
Ce qui veut dire?
Une influence certaine.
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire que c'est quand même étonnant aujourd'hui de voir à l'intérieur du journal autant d'articles qui parlent de ça et qui mettent de l'avant après qu'il ait tweeté en me disant que j'étais un vire-capot, que j'étais un ci, que j'étais un ça. Je pense qu'il faut qu'on ait un certain devoir de réserve comme propriétaire de médias. Et si j'étais aujourd'hui journaliste ou chroniqueur au Journal de Montréal, je m'interrogerais sur mon impartialité. Parce que le job de journaliste à la base, là, le code d'éthique du journalisme à la base, c'est de démontrer une impartialité. Impartialité.
Et vous pensez qu'ils ne le sont pas?
Je pense qu'ils ont... Je pense qu'ils ont aujourd'hui des... Ils sont bien contents, ils reçoivent des bonnes tapes dans le dos quand des dossiers aujourd'hui parlent d'intérêts qui vont être en faveur des positions de leur patron, définitivement.
Puis est-ce que vous craignez ça au fur et à mesure qu'on s'approche de la campagne électorale?
Non, je pense que les gens vont être capables de faire la différence. On voit aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, des médias de grande influence qui vont prendre des positions extrêmement drastiques, dogmatiques par rapport, par exemple, à Trump. Et je pense qu'on va être capable de se sortir de là.
Merci beaucoup, Alexandre Taillefer, d'être venu ce matin. Il est 7h42.